France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Et c'est la suite de l'édition spéciale jusqu'à 20h, premier jour de la présidence Trump. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Le voyage pour récupérer notre République n'a pas été facile. Ma vie a été sauvée par Dieu. Je vais déclarer l'urgence nationale avec la frontière sud. Repoussons l'invasion désastreuse de notre pays. C'est la fin du New Deal vert. Vous pourrez choisir votre voiture. Drill, baby, drill. Les droits de douane et les taxes sur les pays étrangers commencent et nous créons même une agence pour les collecter. Il n'y aura à l'avenir que deux genres, hommes et femmes, et nous planterons le drapeau américain sur Mars. Voilà un petit florilège des phrases de Donald Trump dans son discours d'investiture. Un long discours qui ne ressemblait pas, d'ailleurs, on a eu l'occasion de l'évoquer, on y reviendra, à un discours d'investiture traditionnel. Un discours dont nous allons débattre évidemment grâce à vous et vos questions. Peu rassembleur aussi, mais qui a dévoilé les premiers décrets que Donald Trump va signer dans quelques minutes. À peine et toute la semaine. Il dit d'ailleurs qu'il en signera une bonne centaine. On a la teneur, on a l'esprit de cette présidence Trump. On n'est pas très étonné, le reste c'est à vous qu'on en parle. C'est donc le jour 1 et c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Dominique, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités. Discours tonitruant de Donald Trump, hégémonique, comme l'Amérique l'a toujours été. Mais il semblerait que ce soit un discours rassembleur, hein, à savoir que il a parlé d'antiraciste en quelque sorte, hein, le citoyen sera jugé au mérite. Alors donc, ce sont des mots qui vont peut-être dans le bon sens, dans l'apaisement où on a connu l'Amérique jadis, où il y avait beaucoup de racisme, enfin en quelque sorte, et aussi cet esprit cocardier de patriotisme qui veut donner aux jeunes dans les écoles, en quelque sorte.
Eh ben merci beaucoup Dominique pour cette entrée en matière, parce que vous avez dit plusieurs choses et en rapport avec ce discours qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Rim Montaz qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef de la plateforme stratégique Europe chez Carnegie. Il y a Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du programme États-Unis à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et puis Pierre Aski, chroniqueur géopolitique évidemment à France Inter.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre. Je suis assez curieuse, Rim Montaz par exemple, de savoir ce que vous pensez de l'interprétation de notre ami Dominique, qui au fond a vu un discours antiraciste, pour le remettre dans l'oreille des gens qui nous écoutent. Spécifiquement, il remercie les électeurs hispaniques et les électeurs noirs qui ont voté pour lui. Il dit même le rêve de Martin Luther King, nous l'atteindrons.
Ouais, je ne dirais pas que c'est un discours antiraciste, c'est un discours où, par un politicien qui a beaucoup de talent, qui sait comment parler à ses partisans, qui a compris qu'il a augmenté sa part de soutien parmi la population hispanique et la population mâle noire aux États-Unis, et il est constamment en campagne Donald Trump, même lors de son inauguration, et c'est pour ça qu'il a eu un mot tellement spécifique pour ce groupe dans la population américaine. Il n'a pas oublié qu'ils l'ont aidé à reconquérir la Maison Blanche.
Et c'est vrai, Pierre Aski, que ça ressemblait plus à un discours de fin de campagne qu'à un discours d'investiture, que ce discours-là. En même temps, notre auditeur l'a trouvé rassembleur. L'avez-vous trouvé rassembleur ?
Alors, il était effectivement sur ce terrain-là, c'est-à-dire, moi j'ai sursauté quand j'ai entendu dire qu'il allait réaliser le rêve
le
de Luther King.
C'est
pas ce qu'on attend, ce qu'on s'attend à entendre de la part de Donald Trump, mais ça rejoint ce qu'on a entendu, ce qu'on a pu analyser avec les résultats de l'élection en novembre, c'est que là où les démocrates s'attendaient à avoir les groupes ethniques en bloc derrière eux, on a vu qu'il y avait en fait des clivages politiques à l'intérieur des communautés, qu'il y avait des ultra-conservateurs noirs ou hispanos qui pouvaient voter pour le candidat républicain. Et de ce point de vue-là, il l'a compris et son discours rassemble ces gens-là, c'est-à-dire ces électeurs venus d'ailleurs, qu'on ne s'attendait pas à voir dans le camp républicain et qui se sont rangés derrière lui avec l'espoir de voir ce programme conservateur réalisé.
Notre auditeur, Laurence Nardon, a aussi dit tonitruant. Moi, je trouve ça intéressant qu'il ait employé ce terme-là, parce que il parle aussi d'un discours cocardier. Enfin, cocardier. Donc, enfin, en tout cas, on va planter le drapeau américain sur Mars, etc. Oui, c'est ça, nationaliste, ou au moins patriotique.
Oui, et
et même, je dirais, jusqu'à dire assez optimiste dans la tonalité.
Ah, vous l'avez trouvé, vous ?
Et ça tranche, non, enfin, oui, parce que je trouve qu'il tranchait énormément avec le discours de 2016.
Ah, c'est fou.
Enfin, 2017 en réalité, janvier 2017, il y a 8 ans, qui était le discours du carnage. Absolument. Il dénonçait une Amérique totalement désagrégée. Et là, bon, c'est vrai, il la dénonce toujours, mais il arrive avec beaucoup plus de... je trouve d'optimisme et de cette idée que, contrairement à 2016 où son élection était quand même un petit peu vue comme un accident par beaucoup de monde,
et
il faisait face
aussi,
à une énorme mobilisation des démocrates à l'époque qui jugeaient son élection injuste parce qu'il n'avait pas eu le vote populaire, il n'avait eu que les grands électeurs à l'époque. Cette fois-ci, sa réélection n'est pas, il n'est pas possible de la remettre en cause d'un point de vue démocratique. Et du coup, il part avec beaucoup plus de certitude qu'il y a 8 ans, d'où cette espèce de, d'élan, j'ai trouvé quand même dans ce discours. Et pour revenir juste un moment sur la question de Martin Luther King, il est quand même très fort de réussir à prendre Martin Luther King... dans son panier pour se réclamer de lui. Et je trouve que non seulement il remercie les Africains-Américains et les Hispaniques qui ont voté pour lui, mais il ajoute aussi, je trouve, un coup aux démocrates et à leur politique de diversité, inclusion équité. En fait,
il le fait exprès, il leur enfonce un coup de couteau dans le dos en leur disant que ça leur fait mal, et le fait est que ça doit faire mal.
Il veut s'en prendre tout de suite au « wokisme » entre guillemets, et au fait que les démocrates, dans leur politique très très progressiste, en fait ont plutôt divisé la nation, en tout cas c'est ce qu'ont jugé les électeurs il y a 2 mois.
Alors il le dit déjà, effectivement, ce virage, on va le dire comme ça, le virage anti-woke, parce qu'il en parle d'ores et déjà, donc on est au milieu des droits de douane, on est au milieu de la frontière mexicaine et des soldats, et puis, Rimontaz, il n'y aura plus que 2 genres, un homme et une femme. On le disait un peu en première heure, on a l'impression que c'est aussi, quand on parlait d'un discours rassembleur, peut-être au moins pour ses troupes, c'est rassembleur aussi pour chacune des tendances, on va dire, qu'est aujourd'hui le trumpisme, qui a évidemment un spectre plus élargi qu'en 2016.
Oui, on voit aujourd'hui Trump arriver avec beaucoup plus de confiance. Il sent qu'il a le vent en poupe, qu'il sait que aujourd'hui il est en position de force. Il arrive avec énormément de confiance. Il sent qu'il a un mandat populaire réel et il sent qu'en plus
le voyage pour récupérer notre République n'a pas été facile.
Exactement.
Les guillemets.
Et il sent qu'il a une mission. En fait, divine.
Absolument. Ma vie a été sauvée par Dieu.
Exactement.
Très
il a une mission divine pour restaurer la grandeur et la gloire des États-Unis qui auraient été ébranlées par les démocrates ultra-progressistes qui ont divisé la nation. Et surtout, là où il a un talent, Trump, et là où les démocrates n'ont pas su répondre, c'est qu'il sent la population beaucoup plus. Même si c'est un paradoxe, puisque Trump est né millionnaire, qu'il a grandi et qu'il a toujours vécu à New York, qui New York n'est pas vraiment les États-Unis, il a développé ce sens assez aigu de ce que l'Américain moyen ressent dans l'Amérique profonde. Et c'est ce qu'il exprime ici. Moi, quand je vais voir ma famille en Pennsylvanie rurale, ils me parlent de ça. Ils me disent, en fait, les démocrates sont allés trop loin sur ces questions de trans, sur ces questions d'inclusion, que c'est une minorité... qu'on les respecte, qu'on veut pas qu'ils subissent de discrimination, mais est-ce qu'on a besoin d'en parler tous les jours, 4 fois par jour ? Et c'est ça que Trump a senti, c'est pour ça qu'il en parle dans ce discours. Et en fait, cette partie du discours va plaire à au-delà de son électorat.
Au-delà de la base, au-delà des hardcore, vous voulez dire.
Absolument.
En fait.
Et ça peut plaire à un électorat, un Américain moyen, qui n'a pas voté pour lui, qui peut-être s'est abstenu parce qu'il n'était pas d'accord sur, par exemple, comment il insulte les femmes, ou bien sur son désir d'imposer des droits de douane, mais qu'il était plutôt d'accord sur cette question.
Pierre Aski, avant de retourner au standard, moi je me demande, quand il prononce cette phrase, en fait, effectivement, qui nous a tous un peu fait sursauter, et qui dit « Le voyage pour récupérer notre République n'a pas été facile, ma vie a été sauvée par Dieu », je me demande s'il y croit, en fait, si désormais
désormais, il s'est mis lui aussi dans cet état d'esprit-là, ou si c'est l'influence et l'envie de plaire à, pour le coup, la base ultra-religieuse de son électorat. Je me demande s'il aurait été capable de prononcer cette phrase en 2016, même si on l'avait tiré dessus, pour tout dire, en fait.
Je trouve que dans ce discours, il y a tous les mots-clés, quand même, de, la, de l'épopée américaine. Il parle de la destinée manifeste, qui était cette phrase de la conquête de l'Ouest et de les guerres contre le Mexique, etc. Il a, quand il dit on va planter le drapeau sur Mars, il reprend la mythologie de Kennedy, on va aller sur la Lune.
C'est plaisir à Musk qui est juste derrière lui.
Voilà, évidemment. Ouais. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sincérité dans tout ça. Il y a surtout un discours qui coche des cases. Et il y a celle de l'histoire américaine, de l'exceptionnalisme américain, il a employé le mot, qui sont des mots-clés d'un discours patriotique.
Et même des piliers de l'identité nationale américaine à travers les deux parties.
Retour au standard où nous attend Véronique. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi le discours il m'a tétanisé et je voulais partager cet effroi avec vous, mais c'est parce que je trouve que il y a un manque de réaction à ses propos sur le Groenland et le Panama. En plus, il a rajouté qu'il allait réembaucher l'armée. Enfin, il a donné quand même une attention assez forte par rapport à ça, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, et en plus, pour vous dire le fond de ma pensée, je veux dire, un tribun très doué, le rassemblement des droites extrêmes pour fâcher personne, qui donne des envies d'étendre son territoire, et puis les autres qui disent non, ça va pas se faire, c'est pas ça, ben voilà.
J'entends ce que vous dites, Véronique. Merci beaucoup, Laurence Nardon. Et c'est vrai que alors Panama, il y a une belle couche de Panama dans ce discours, beaucoup plus discret sur le Groenland, par exemple.
Et le Canada.
Ah bah alors Canada encore moins.
Mais c'est vrai que on a été quand même très, enfin, stupéfait de ce qu'il faut bien appeler des revendications territoriales. Émise par Trump ces derniers temps, alors qu'on avait pu croire qu'il voulait se concentrer sur la restauration de l'Amérique, make America great again, ne pas s'impliquer dans le reste du monde. Et donc, on a du mal à comprendre que Trump, aujourd'hui, se comporte plutôt comme un impérialiste, au sens, alors pas les impérialistes du XXe siècle, vous savez, quand on disait les partis communistes qui étaient anti-impérialistes, ils visaient cette action des États-Unis, de la CIA en Argentine, etc., des actions souterraine et assez soutenue, mais on fait plutôt référence là à l'impérialisme déjà des républicains à la fin du 19e siècle, vous savez, quand Teddy Roosevelt va conquérir Cuba, les Philippines, etc. En fait, quand Trump parle d'annexer le canal de Panama, le Groenland, etc., ce qu'il veut, c'est établir, exactement comme Roosevelt au 19e siècle, des bases navales pour assurer la puissance américaine dans le monde. Et c'est ça, le néo-impérialisme de Trump. Et donc, il faut voir que nous, ça nous paraît délirant, et on va espérer que les Européens et le reste du monde vont quand même réagir et ne pas être totalement tétanisés par cette technique de négociation hyper brutale de Trump, qui consiste à dire les choses pour faire peur aux gens d'en face.
Et donc de les obliger, au fond, à négocier et donc à faire des concessions. Mais parce qu'au final, c'est ça la stratégie.
Mais si on tient bon... En fait, je ne sais pas si Rim et Pierre ou vous, Fabienne, vous avez lu certains des ouvrages de Trump quand il était homme d'affaires, qu'il expliquait comment devenir riche, The Art of the Deal, tous ses bouquins. Il explique sa technique de négociation et c'est la même qu'il a aujourd'hui. Ça consiste à mettre sur la table des choses extrêmement brutales, des exigences, pour faire peur à la personne avec qui on négocie, mais... Si cette dernière tient bon et dit non, je le ferai pas, en fait, il laisse tomber assez rapidement. Il change d'avis, au bout de 3 jours, il a oublié ce qu'il avait proposé, il est passé à autre chose. Et donc, c'est vraiment ce que les Européens doivent faire aujourd'hui.
On va reprendre le fil de cette discussion, mais je voudrais qu'on interrompe ce téléphone. Sonne hélas quelques instants pour une alerte enlèvement.
Mohamed, 5 ans, et Nassim, 3 ans, yeux marrons, cheveux noirs de corpulence mince, ont été enlevés à Fourmies, dans le Nord, rue Jean Jaurès, le lundi 20 janvier 2025, vers 13h10. Mohamed mesure 1m10, est habillé d'un manteau noir et blanc, d'un bonnet noir, d'un jean noir et de baskets noires. Nassim mesure 70 cm, est habillé d'un jean gris, d'un manteau marron, d'un bonnet beige, avec des oreilles de nounours et des baskets noires. Le suspect pourrait être le père, un homme de type maghrébin mesurant 1m70. 1965, yeux marrons, cheveux noirs, courts, barbe naissante, âgé de 38 ans, porteur d'une doudoune bleu marine, d'un pantalon noir et de baskets noires, d'un cache-cou gris. Il aurait pris la fuite dans un véhicule Audi A3 de couleur gris clair, immatriculé BD761QQ. Si vous localisez les enfants, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 08 00 36 32 68 ou envoyez un courriel à l'adresse alerte-enlèvement@gendarmerie.intérieur.gouv.fr.
Merci beaucoup Erwan Chassin. C'est le message donc officiel du ministère de l'Intérieur pour cette alerte enlèvement. Alors, c'est compliqué, mais on va reprendre le cours de cette discussion et de cette édition spéciale. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose ? On était entre Panama, oui. Le Groenland et le reste.
C'est difficile de reprendre la parole après cette alerte, ce qui est un peu glaçante. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a changé de paradigme malgré tout, y compris par rapport à la première mouture de Trump. Je citais ce matin dans ma chronique la déposition de Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, devant le Sénat lorsqu'il a eu sa séance de confirmation. Et il a expliqué une chose, il dit l'ordre international se retourne contre nous, est utilisé contre nous, donc nous devons en créer un autre, qui sera basé sur quoi ? Sur la force de l'Amérique. Et donc, il y a cette volonté aujourd'hui de mettre à bas, comme le veulent Poutine ou Xi Jinping, l'ordre international de 1945, pour en créer un autre, mais dans lequel c'est l'Amérique qui dominera, mais elle dominera non pas par des alliances ou par le multilatéralisme, comme c'est le cas depuis 1945, mais par la force.
Mais ça veut dire quoi, l'ordre international se retourne contre nous ? À quel moment l'ordre international se retourne-t-il contre les États-Unis ?
Oui, mais c'est la logique de Trump depuis le début dans tous ses discours, oui, que tout le monde profite de nous. Et il l'a dit d'ailleurs implicitement dans son discours aujourd'hui, les alliés ont la protection américaine, mais ils ne payent pas, etc. etc.
Et d'ailleurs, ils veulent faire augmenter notre code-part de 3 à 5%.
Les Taïwanais nous ont piqué les semi-conducteurs, les Allemands nous ont piqué les bagnoles, etc.
C'est l'idée qu'ils se font avoir quand ils dirigent une alliance comme l'OTAN, et que donc ils doivent s'en retirer dans leur propre intérêt.
Mais juste sur la question du Panama, ce n'est pas une lubie trumpienne, c'est-à-dire que plusieurs présidents récents, modernes des États-Unis en ont parlé à un certain moment. Le Panama est réellement vu comme un des portails les plus importants pour l'économie américaine, et aujourd'hui, c'est pas seulement Trump, mais des gens sérieux dans le camp républicain qui trouvent que, comme la Chine a un peu une mainmise sur ce goulot d'étranglement ultra important dans le transport maritime et donc dans l'économie américaine, que ça ne peut plus continuer, parce que ça rejoint ce que Pierre disait, c'est-à-dire qui aujourd'hui est vraiment à la tête de cette défiance de la domination américaine de l'ordre international, c'est la Chine. Donc pour lui, il voit la reprise de Panama comme une des premières mesures pour contrer la manière dont la Chine est en train de s'affirmer. Du côté du Groenland, force est de constater que c'est un endroit ultra stratégique, surtout dans la conquête de l'Arctique et dans la compétition pour l'Arctique qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile avec la Russie. Et force est de constater que les Européens, et donc que n'ont pas vraiment utilisé ou transformé cet endroit comme atout stratégique. Par contre, ce qu'il aurait pu faire,
mais c'est-à-dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a des bases américaines.
Il y a des bases américaines.
Du coup, la question, c'est est-ce que c'est vraiment la stratégie qui l'intéresse, ou est-ce que c'est plutôt les métaux rares qu'il peut y avoir à l'intérieur, et on en fait pour le coup une mine à ciel ouvert.
Mais les métaux rares font partie de la conquête stratégique, et évidemment, s'il avait été un très bon deal maker, négociateur, il aurait très bien pu proposer au Groenland juste de lui faire de louer le Groenland pendant 100 ans pour une certaine somme sans faire ce problème.
Rapidement,
oui,
Laurent,
juste ajouter sur le Panama qu'en réalité, donc il a été construit par un petit peu les Français, mais les Américains il y a plus d'un siècle, mais en réalité la rétrocession du canal de Panama au Panama par les États-Unis c'est sous Carter en 79 et elle est définitive en 1999 seulement. Donc pour un Américain, l'idée de récupérer ce canal ou d'avoir des facilités de paiement ou des tarifs spéciaux n'est pas aussi délirante que on pourrait le croire. Je ne dis pas que je suis pour, mais j'explique le contexte pour un Américain.
On est en édition spéciale sur France Inter après le discours d'investiture de Donald Trump au jour 1 du 47e président des États-Unis, avec Raymond Taz, avec Laurence Nardon et avec Pierre Aski. Et puis, avec nous, et qui nous appelle, il y a Agnès. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute,
Agnès. On imagine que Trump va signer des centaines de décrets auprès des instances de vote. Ceci dit, je me demandais, sachant que la Chambre des représentants et le Sénat, donc ces deux chambres, sont majoritairement républicaines, mais de justesse, est-ce que là ne va pas sauver limite la complication des votes.
Merci beaucoup.
Est-ce que ça va être des garde-fous finalement pour limiter la validation de ces décrets?
Merci beaucoup Agnès pour votre question. Rimontaz, il faut expliquer effectivement comment ça marche les décrets. Parce que moi j'ai une autre question derrière la question d'Agnès. C'est alors les chambres c'est une chose et puis surtout le droit, la Constitution en fait sur un certain nombre de choses qu'il a annoncées quand même.
Donc en fait il faut différencier. Il y a certains décrets qui n'ont pas besoin d'être confirmés par le Congrès.
C'est le principe d'un décret,
et donc qui peuvent passer. Sauf que aujourd'hui, il a annoncé qu'il signait un décret, par exemple, pour revenir sur le droit du sol aux États-Unis, surtout. Alors, il a précisé que ça serait pour ceux qui sont en situation illégale aux États-Unis, donc deux personnes dans une situation illégale qui ont un enfant aux États-Unis. L'enfant, d'habitude, devient américain par le droit du sol. Ça tient au 14e amendement de la Constitution. Pour changer ce 14e amendement de la Constitution, il a besoin d'une super majorité
60.
Dans la Chambre des représentants et le Congrès. Aujourd'hui, il ne l'a pas. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe avec ce décret en particulier. Il va y avoir des défis légaux, il va être challengé. Quoi.
Ouais, et on verra aussi, parce que ça risque d'aller ce genre de choses jusqu'à la Cour suprême, et c'est ça qui va devenir intéressant, Laurence Nardon, parce que s'agissant de tout ce qui est purement sociétal, on sait bien où se situe la Cour suprême, elle l'a déjà fait savoir à plusieurs reprises, notamment sur l'avortement. Maintenant, pour ce qui est du droit pur et dur, et là en l'occurrence droit du sol ou pas droit du sol, 14e amendement ou pas, il n'est pas du tout sûr qu'elle soit si favorable que ça Donald Trump ou pas, cette cour.
Ben oui, c'est ça qui nous paraît fou, c'est que donc on sait qu'aujourd'hui, sur les 9 juges de la Cour suprême, il y en a 6 qui sont conservateurs et 3 qui sont progressistes, enfin libéraux au sens américain du terme. Bah, normalement, ils doivent quand même donner leurs décisions en droit et non pas sur des questions politiques. Mais aux États-Unis, tout est politique et les juges conservateurs sont originalistes, c'est-à-dire qu'ils lisent le droit comme à l'époque où comme à l'époque où il a été écrit, ce qui est un petit peu étrange, alors que les progressistes interprètent le droit continuellement. Et c'est là-dessus que les différences se font et elles ont des conséquences politiques énormes. Oui, en même temps, vous avez raison, c'est toujours difficile de prédire ce que va décider la Cour suprême, puisqu'elle peut juger en droit contre ce que voudrait Trump. Vraiment, très honnêtement, sur toutes ces questions, je pense qu'elle va plutôt juger dans le sens conservateur, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais je n'ai pas de boule de cristal plus. Enfin, le droit américain est quand même plein de surprises, la Cour suprême.
Et il y a beaucoup d'executive orders qu'il va signer qui n'ont pas besoin d'être ratifiés le Congrès ni par
la
Cour suprême. Il y aura des recours. Mais par exemple, la sortie des accords de Paris, puisqu'il a annoncé qu'il allait de nouveau sortir de l'accord de Paris, ce qu'il avait déjà fait lors de son premier mandat. Joe Biden était revenu et on en ressort aujourd'hui. Ce sont des décisions qui sont de son ressort et qui peuvent avoir des recours, mais qui ne vont pas sans doute, enfin en tout cas dans le premier mandat, ça n'a pas été annulé par quelque instance que ce soit. Ou par exemple, l'état d'urgence qu'il décrète à la frontière mexicaine, je pense que là aussi, c'est dans les prérogatives.
Même l'utilisation de l'armée,
président.
Par exemple, pour ce genre de choses, s'il dit, si l'armée intervient.
Oui, c'est lui, exactement, c'est le chef des armées, il a le droit de
fermer les utiliser,
de les utiliser. Vous savez, on a déjà envoyé des troupes au combat sur la base de executive orders. Après, à un moment, quand il s'agit de demander beaucoup de moyens, il faut passer par une commission au Congrès, la Ways and Means Commission, et c'est là où ça peut se compliquer, mais pas nécessairement, parce que si on a juste une majorité dans la commission, ça passe. Et il est possible que la commission puisse le soutenir là-dessus.
Un mot avant de retourner. Pardon, Laurence.
Et là aussi, il y aura des recours énormes, parce que par exemple, si il veut lancer, comme on l'a lu dans quelques journaux, une opération militaire dans la région de Chicago pour prendre les illégaux et les renvoyer chez eux, Chicago, qui est une ville plutôt démocrate, il y aura des recours accusant Trump de violer les droits fondamentaux des personnes.
Comme donc, il y en avait eu beaucoup après, en 2017, après le Muslim Ban, l'interdiction d'arriver aux États-Unis de certains musulmans, mais pas tous, en fonction de leur pays. Tout ça avait été extrêmement défait devant les tribunaux. Avant de retourner au standard, Pierre, deux questions qui sont pour vous, c'est la même question. Est-ce que l'éclatement de l'Europe n'est pas à craindre? Et on a Benjamin sur WhatsApp qui fait un ajout, si je puis dire, à cette question, en disant est-ce qu'il faut voir les États-Unis désormais comme un adversaire ou toujours comme un partenaire?
Alors c'est une question compliquée. Il y a eu un sondage cette semaine, la semaine dernière, publié par un think tank, le CFR, qui montrait que seulement 22% des Européens considéraient les États-Unis comme un allié et 45% comme un partenaire nécessaire. Et c'est une détérioration par rapport aux études précédentes. C'est-à-dire que la notion d'allié devient très compliquée avec quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. C'est cette situation. Est-ce que l'Europe va éclater? Je pense que c'est prématuré de dire ça. Ce qu'on peut craindre dans la phase actuelle, c'est que l'Europe ne soit pas à la hauteur de la réponse qu'il faille apporter à ce qui va se passer aux États-Unis. Et on le voit déjà, parce que vous avez tous les géants du numérique qui sont au premier rang de l'investiture. Que va-t-il se passer lorsque la Commission devra trancher sur des violations des lois européennes sur le numérique? On a la semaine dernière Google qui a fait savoir à Bruxelles qu'il ne respecterait pas le DSA, qui sont les régulations européennes sur le numérique. Que va faire l'Europe? Et on risque quand même, parce qu'il y a eu une petite phrase de J.D. Vance, le vice-président, au mois d'octobre, lorsqu'il y a eu un clash entre Bruxelles et entre Thierry Breton et Elon Musk. Vous vous souvenez peut-être
juste avant qu'il quitte
la Commission. Et Vance avait dit: si la Commission touche à un cheveu des entreprises d'Elon Musk, nous quittons l'OTAN. C'est-à-dire, on a des dossiers qui n'ont rien à voir entre eux, qu'on mêle, et c'est donnant-donnant. Vous vous taisez sur le numérique et on continue à vous protéger.
Et en même temps, on a X et Meta qui confirment leur engagement contre la haine en ligne dans l'Union européenne. Ça date d'aujourd'hui, c'est la Commission qui le dit. Donc on a un peu le sentiment aussi que c'est pas qu'il y a de l'eau dans le vin, c'est que pour l'instant, on laisse séparer, en gros, s'agissant des réseaux sociaux, en tout cas de X et de Meta, les États-Unis, et on garde sa spécificité à l'Europe. Après, la question, effectivement, c'est jusqu'à quand, Rimontez?
La question va se poser, mais en fait, elle va être mercantile et pécuniaire. Il ne faut pas oublier que l'Europe, l'Union européenne, a un pouvoir dans cette équation. Elle n'est pas complètement faible.
Et 450 millions
de consommateurs. Et ça pèse. Et c'est important. La santé économique de l'Europe, en fait, fait partie, est un pilier consubstantiel de la santé économique des États-Unis. Donc, à un certain moment, même Trump va devoir se rendre compte que s'il impose des droits de douane qui commencent à détruire l'économie européenne, ou bien à envoyer l'économie européenne dans une sorte de décroissance, il va payer le prix aux États-Unis avec son économie. Donc ça va être une carte importante à jouer. Je voulais juste revenir sur une question. En fait, les États-Unis sont des alliés, sont un adversaire et sont un compétiteur. Ce sont les trois.
Comme la Chine.
Et comme la Chine. Et en fait, les États-Unis ont été ça depuis très longtemps. Ça dépend de quoi on parle. C'est clairement un allié sur la question de la sécurité jusqu'à aujourd'hui. On verra s'ils tiennent leurs engagements sur la sécurité collective. C'est un compétiteur sur des questions géopolitiques, par exemple, d'influence au Moyen-Orient, etc. Et c'est un adversaire, des fois, sur des questions économiques.
Et ça a été le cas, bien sûr, ouais.
Commercial depuis longtemps.
Laurence Nardon, puis on retourne au standard.
Oui, moi je suis d'accord avec Rim, l'Europe n'est pas du tout aussi faible qu'on le croit trop souvent. Alors c'est sûr que là, ça pourrait pas arriver à un pire moment, cette résurgence de cet impérialisme américain avec Trump 2, puisque la France est dans une situation politique compliquée, et l'Allemagne aussi, ses élections au printemps. Mais on est parti pour 4 ans de Trump, et donc affaiblissement politique, enfin cette espèce de flou politique franco-allemand en Europe, il va se résoudre dans les 4 ans, et donc on va pas être faible 4 ans. Il faut vraiment Il faut vraiment se prendre en main. La commission est forte. Elle vient d'être reconstituée pour un nouveau mandat.
On n'a pas beaucoup entendu Ursula von der Leyen quand même. Je voudrais quand même vous lire, parce que j'en ai lu un morceau tout à l'heure en première heure, mais quand je lis Viktor Orban qui dit le nouveau mandat de Donald Trump qui sera investi, etc., donc il le dit un peu avant l'investiture, favorisera une deuxième vague de changements politiques d'ampleur en Europe au profit de la droite qui est en position d'occuper Bruxelles. Ce sont les mots d'Orban. Il dit, dans quelques heures, le soleil brillera différemment sur Bruxelles. La grande attaque peut donc commencer. On a beau savoir qui est Viktor Orban, ce qu'il est en train de nous dire, c'est bon, on a le pied dans la porte, en fait, nous les populistes, et sévèrement le pied dans la porte en Europe.
Mais c'est le plan qu'il a en tête depuis des années.
Bien sûr.
Qu'il a tenté d'élections européennes en élections européennes et avec des alliés à travers l'Europe. Il en avait parlé beaucoup à une époque avec Steve Bannon, qui avait tenté une sorte d'OPA sur l'extrême droite européenne. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'ils ont fait des progrès, parce que le nombre de gouvernements qui sont, et on va voir l'Autriche dans quelques jours, qui sont aux mains de partis populistes ou souverainistes ou d'extrême droite, commencent à constituer une sorte de minorité de blocage.
Retour au standard. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir.
Pardon, on vous a fait beaucoup attendre, on vous écoute.
Ah non, il n'y a pas de souci. Oui, je vais essayer d'insuffler un peu d'espoir et d'optimisme.
Bravo.
Journée, très bien. Morose pour la démocratie, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, j'aimerais connaître la raison du silence assourdissant des démocrates depuis l'élection présidentielle qu'ils ont perdue. On a l'impression que Musk et Trump sont devenus la voix de l'Amérique. C'est qu'ils tous les jours... tous les canaux de communication. Donc, est-ce par peur, est-ce par absence de stratégie, est-ce qu'ils se donnent encore un peu de temps pour savoir comment ils vont repartir à la bataille? Voilà, ça c'est ma première question. Et puis la deuxième, elle découle un peu de la première, c'est est-ce que l'horizon des midterms, donc dans 2 ans, semble réaliste pour essayer de changer la donne? Il y a un précédent intervenant qui a parlé d'équilibre très précaire au niveau des deux chambres. Est-ce que c'est susceptible de bouger? Et puis est-ce que Trump, ce sera ma dernière remarque...
Dites donc, vous trichez, ça fait 3 questions. Allez-y.
Oui, il ne va pas être rattrapé par un principe de réalité, oui. Il a promis tout et n'importe quoi, et il y a quand même encore la moitié des Américains qui n'ont pas voté pour lui. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Luc, parce que tout ça est très pertinent. Alors d'abord, sur effectivement, d'abord le silence des démocrates, est-ce qu'ils sont sonnés, les démocrates? Est-ce qu'ils ont été sonnés?
Oui, je crois qu'ils sont consternés par leur échec, qui est vraiment sur lequel ils ne peuvent pas se raconter d'histoire, comme quoi il y aurait eu des ingérences, ce serait une victoire qui serait pas complètement réglo. Non, là, ils ont vraiment bien perdu. Et en fait, leur silence est lié donc à cette consternation. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de pussy hats dans les rues de Washington, les bonnets roses qu'on avait vus en 2017. Ouais. Mais surtout, et là, ils ne sont pas sortis du bois, ils ne sont pas d'accord entre eux sur les causes de cet échec. C'est-à-dire qu'il y a tout le courant modéré.
C'est ce que j'allais vous demander. Ils ont pas fait la journée à bientôt encore, les démocrates. Il y a Rim qui fait non.
Ils vont le faire dans les mois qui viennent, parce qu'ils vont réélire le président de leur comité national.
Parce qu'il faut le suivant. Enfin, je veux dire, ça va très très vite aux États-Unis. Il faut le sortir de la boîte, non?
Il faut que les jeunes têtes sortent, mais il faut surtout donc qu'ils se mettent d'accord sur leur programme et leur idéologie. Là, on voit bien le courant modéré, celui de Kamala Harris et de Biden, qui dit qu'en fait, le parti a été perçu par les électeurs comme beaucoup trop radical sur les questions sociétales, donc c'est le fameux wokisme dont on parlait tout à l'heure, tandis que la politique économique de Biden, les Bidenomics, qui consistait à insuffler énormément d'argent fédéral dans l'économie pour redonner la prospérité aux classes moyennes, a été perçue par ce qui pour nous Européens semble très vertueux, on aime bien que l'État s'occupe de l'économie, eh bien ça a été perçu par les électeurs américains comme une machine à inflation.
Sur le principe de réalité, Rimontaz, il a raison, notre ami auditeur, parce qu'on a déjà entendu Trump dire d'une interview à l'autre, on sait que ça va être très difficile, ça va vraiment être très très difficile, notamment pour ce qui est de la baisse des prix. Le principe de réalité, vous l'avez un peu évoqué, c'est que quand on fait monter les droits de douane, on fait mécaniquement monter l'inflation, de l'autre côté, c'est pas tellement ce qui était prévu. L'autre principe de réalité, par exemple sur l'Ukraine, c'est de se rendre compte que finalement ça va pas être si difficile. Donc à quel mur quand même il risque de se heurter au jour 2 Donald Trump?
Alors, pas le jour 2, mais je pense que d'ici un an, cette question des tarifs douaniers et donc de l'inflation va être ultra importante. Ça pourrait être d'ailleurs la corde de rappel des démocrates pour essayer de se refaire une santé avant les midterms, même si en ce moment, ils sont dans une situation catastrophique de déroute et de division entre eux. Par contre, sur Poutine, ça va être intéressant. Ce qu'on a entendu dire hier, Trump, c'est qu'il veut le rencontrer dans les prochains mois et aller vite vers une certaine négociation et une solution de cesser le feu en Ukraine. S'il arrive à convaincre Poutine de jouer dans cette négociation, il va pouvoir se donner un peu plus de temps pour dire, regardez, moi j'ai pu arrêter la guerre, comme d'ailleurs il s'en prévoit sur Gaza et Israël, parce qu'on sait que sa participation dans les négociations a été très concluante sur le cessez-le-feu qu'on voit en ce moment à Gaza.
Allez, Cyril est avec nous. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir.
Une poignée de secondes, Cyril, je vous en supplie. Allez-y.
Très rapidement, moi je voulais mettre l'accent sur les positions de M. Trump concernant une vision de l'Amérique très rétrograde qui revient sur un rêve américain et qui marche complètement sur les questions écologiques et qui prend des positions qui me paraissent très dangereuses, pas seulement pour les Américains, mais pour l'ensemble de la planète. Et voilà.
Merci beaucoup Cyril, merci vraiment Pierre Aski. Pardon Cyril, mais on n'est tellement pas étonnés qu'on ressorte de l'accord de Paris, qu'il refasse le coup des voitures électriques, hélas.
Et il a cité son discours « Drill, baby, drill », qui est ce slogan en faveur du fracking, du forage hydraulique.
Fracturation hydraulique.
Et donc, on a un Trump qui est effectivement l'incarnation des climato-sceptiques et de la négation du problème climatique. Mais effectivement, c'est sans surprise. Et comme ça s'accompagne d'un discours tellement volontariste sur « on va être les plus grands, les plus beaux, les plus riches, les plus prospères », ça passe au niveau d'une partie de l'électorat et de l'opinion américaine. L'autre partie qui est sensible à ces sujets, c'est celle qui a perdu la bataille.
Merci beaucoup.